Suzy présente Si ce livre pouvait me rapprocher de toi, de Jean-Paul Dubois, lu par Alexandre Pavlov. À Apolline ou Louis. En souvenir de Didier Morziglode. Je songeais à la chance et au hasard. Je songeais à tous les types de peurs et à ce qui pouvait faire courir quelqu'un. Je comprenais seulement ce que c'était de nager dans une eau de plus en plus profonde, en essayant de toutes mes forces de ne pas perdre le souffle et en m'efforçant toujours d'arriver au bout. Rick Bass. Il est aisé, après tout, de ne pas être écrivain. La plupart des gens ne sont pas écrivains et il leur arrive fort peu de malheur. Julian Barnes. Le début. Il a neigé toute la nuit. Le jardin est si blanc que le monde a l'air neuf. Nous sommes le 1er janvier, il fera bientôt jour. Je suis posté devant la fenêtre. Au-dessus des nuages, par une trouée, je distingue un avion. Il ne fait aucun bruit, et seul au bout des ailes, ses lumières clignotent. Il suit la route des oiseaux migrateurs, descend vers le sud, la chaleur du soleil. Je vis à la pointe du nord, sur les terres du froid. Peu à peu, j'apprends à endurer les rigueurs du climat et à différencier toutes sortes de neiges. Je n'ai pas envie de penser à l'année qui vient, ni de réfléchir à toutes ces choses qui nous attendent. Le temps fera ce qu'il doit faire. Je m'assieds à ma table et, dans la lumière naissante d'un hiver livide, à l'instant de commencer à écrire, je n'ai en tête que cette lancinante interrogation lourde du poids de toute une vie. Qu'ai-je donc en moi qui m'a toujours empêché de vivre en paix? C'est, il me semble, une question que nous portons tous en nous, qui tantôt nous vrille la cervelle, tantôt se tortille dans la vase de nos ventres. Une question dont jamais nos os ne s'accommodent et que pour rien au monde nous ne voudrions nous poser. Et avec le temps, elle finit par remonter de notre gorge, peser sur notre langue, au point le jour de nous ôter la parole et la nuit de nous faire crisser des dents. Ce n'est pas une image. Il y a une année de cela, chaque soir, avant de me coucher, je glissais dans ma bouche un appareil dentaire en plastique moulé destiné à protéger mes molaires et mes canines. Cet objet ressemblait un peu aux prothèses de caoutchouc que l'on place entre les mâchoires des fous avant de leur administrer un électrochoc. Je me croyais pour ma part relativement sain d'esprit, jusqu'à ce que je me mette à frotter mes dents les unes contre les autres pendant mon sommeil. Le bruit de ces frictions résonnait tellement dans ma boîte crânienne que je me réveillais en sursaut, les maxillaires tétanisés. Je compris alors que la question évoquée plus haut s'était emparée de moi, qu'elle ne me lâchait plus, m'épuisant la journée et la nuit me cisaillant les mailles. Lorsqu'il me remit l'appareil, le prothésiste dit « Il faut parfois se protéger contre soi-même ». C'est ainsi qu'un jour je devins mon pire ennemi. Je me nomme Paul Perrimulter. J'ai 48 ans. Je suis né à Toulouse, dans un immeuble ancien situé face au monument aux morts. Les fenêtres du salon ouvraient sur cet arc de triomphe guerrier, tandis que celles des chambres donnaient sur l'aile gothique de la cathédrale Saint-Étienne. Il me fallut bien des années pour comprendre que j'avais grandi ainsi, coincé entre les fortifications du sabre et les ogives du goupillon. J'ai toujours détesté cet austère voisinage. Certains jours de commémoration, pour échapper au cuivre de l'infanterie, je n'avais d'autre recours que de battre en retraite dans ma chambre. Là, je devais endurer les jérémiades des orgues sacrés. Je fus donc élevé dans cet entre-deux rigoureux par une famille que je croyais normale, il y a encore quelques mois. Mon père était dentiste et exerçait dans un modeste cabinet de quartier. Ma mère, elle, avait hérité de sa famille l'une de ces indémodables confiseries provinciales. D'un point de vue professionnel, on aurait eu du mal à imaginer couple plus complémentaire. Aujourd'hui, on dirait que ces deux-là, experts en dichotomie, travaillaient en synergie, les sinistres plombages paternels bouchant les cavités dentaires creusées par le forêt des sucres maternels. Cette entente quasi illicite, cette association de malfaiteurs aurait pu durer toute une vie. Le destin voulut que celle de ma mère s'arrêta durant l'été 76, en bout de piste d'un aéroclub où elle s'était inscrite pour passer son brevet de pilotage à vue. Le Cessna s'écrasa tout près d'un hangar autrefois utilisé pour réviser les avions Latéco Air de l'aéropostale. À ses côtés, l'on retrouva le corps d'un ressortissant luxembourgeois qui n'était pas son instructeur et dont personne ne sut jamais ce qu'il faisait dans ce monomoteur. Mon père me parut longtemps plus affecté par la présence de cet inconnu dans la carlingue que par la disparition proprement dite de sa femme. Un an après cet accident, il vendit le magasin de douceur à une entreprise de restauration rapide et continua seul à combattre la piorée jusqu'à ce que lui-même périsse, noyé, en 85, dans un lac du nord du Canada où depuis ma naissance, il se rendait seul deux fois par an pour pêcher le brochet. Toute ma jeunesse fut bercée par les récits de ses aventures québécoises. Lorsque, avant ses départs, en mai et septembre, il préparait méticuleusement ses soies et son équipement, lorsqu'il fabriquait ses mouches ou sélectionnait ses leurres en fonction des espèces et de la saison, mon père devenait à mes yeux une sorte d'intimidant Terre-Neuve, un maître de frégate capable de lire les courants et de déjouer toutes les ruses des poissons. Cette image est demeurée en moi jusqu'à ces derniers temps, jusqu'à ce que j'apprenne que les eaux dans lesquelles il naviguait n'étaient pas aussi claires que nous l'avions tous cru. Durant cette dernière année, j'ai découvert sur lui des vérités qui ont bouleversé ma vie et me le font aujourd'hui considérer comme un singulier pêcheur et un bien étrange chef de famille. J'ai appris beaucoup de choses, parfois embarrassantes sur mon père, et d'autres tout aussi troublantes sur mon propre compte. Notamment qu'en choisissant le métier de romancier, j'avais fait fausse route, et qu'au lieu de l'admettre, je m'étais au fil du temps obstiné dans l'erreur. J'en tire aujourd'hui ce simple enseignement personnel. Un livre n'a jamais rendu meilleur, ni celui qui l'écrit, ni celui qui le lit. Et cet autre plus général. Nous nous épuisons à tenir des rôles à contre-emploi, à vivre dans des maisons trop grandes, à nous accommoder de sentiments minuscules, à aimer par la force des choses. Et si nos dents crissent dans le noir, c'est qu'elles ragent de voir ce que nous sommes devenus, ce à quoi nous avons peu à peu renoncé, au point de nous contenter d'écrire ce que jamais nous ne serons. La neige se remet à tomber, je suis à l'autre bout du monde, et je sais que ce livre ne rachètera rien, ni personne. Il est possible que je me trompe, que ce point de vue pessimiste et quelques autres soient dictés par un esprit fatigué de tant de craquements nocturnes. J'ignore trop de choses pour prétendre donner une quelconque leçon. Me croiriez-vous si je vous disais que longtemps, j'ai réellement éprouvé la sensation de respirer à l'envers. Il neige de plus en plus fort. Les flocons noient lentement le paysage dans un brouillard farineux. Dans le lointain, je distingue encore le néon bleuté de la station-service. Aucune voiture n'a encore emprunté la route qui longe la maison. Elle ne m'a jamais paru si étroite, si modeste. Il est très tôt. Une nouvelle année commence. Des bûches d'érable flambent dans la cheminée. D'ici un mois, si tout va comme je l'espère, peut-être y verrons-nous tous un peu plus clair.